France Inter. Christine Angot, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Pour vivre dans la musique de la langue et la faire partager.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Je ne suis pas un livre.
Une qualité indispensable pour écrire ?
La patience.
Un défaut indispensable pour écrire ?
La mégalomanie.
Romancière, autrice, écrivaine ou autre chose ?
Écrivaine.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans l'émission Etc. Cette semaine, une femme qui écrit pour de vrai, au sens où ses livres ressemblent à la vie à travers ses accidents, ses amours impossibles et ses succès inattendus. L'écriture comme quête, comme recherche du temps volé. En revanche, autant prévenir ceux qui aiment les fioritures, les effets de style, les morceaux de bravoure, ils pourraient être déçus. Christine Angot incarne, je crois, assez bien la distinction entre l'art et la décoration. Dans son dernier livre, La nuit sur commande, c'est justement d'art dont il s'agit. Une nuit passée à la Bourse de commerce de Paris, alors qu'elle aurait pu choisir n'importe quel autre musée du monde, une nuit à ne pas écrire, car qui peut réellement écrire sur commande ? Une nuit qui en rappelle d'autres. La commande, c'est aussi l'ordre, la nuit qui vous oblige, la nuit qui vous bousille la vie. Dans ce texte, Christine Angot mêle ses souvenirs du monde de l'art à ceux du milieu littéraire, des instantanés de moments partagés avec sa fille, artiste, et les évocations dispersées de rencontres amoureuses, le temps comme une boucle toujours entre extase et désillusion. Un texte sur l'écriture, surtout, l'écriture comme obsession, comme liberté absolue et nous en parlerons, avant de retrouver comme chaque semaine nos libraires francophones pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Rebonjour Christine Angot.
Bonjour Lilia.
Votre livre s'intitule La nuit sur commande avec une majuscule au mot nuit. Pourquoi cette majuscule ?
Alors ça, je crois que ce sont les codes en fait.
Dans l'édition, c'est
oui,
c'est une convention.
Enfin, des titres, oui. Quand le titre commence par un article défini, le nom qui le suit est toujours à une majuscule.
Et ça vous convenait ?
J'aime beaucoup. Je trouve ça très. J'aime beaucoup cette. C'est quelque chose de beau, d'équilibré. C'est un titre. C'est pas seulement une phrase. C'est un titre.
Vous avez choisi la Bourse de commerce qui héberge la collection du milliardaire François Pinault. Ce musée est un symbole du pouvoir et ce n'est pas un hasard, puisque votre livre est aussi un texte sur le pouvoir qui vous fascine autant qu'il vous déplaît.
Je ne suis pas sûre qu'il me fascine. Franchement, il a dû me fasciner, ça c'est sûr. Comme il nous fascine tous à un moment ou à un autre, puisque de toute façon il s'exerce sur nous... comme ça, d'une manière tellement large et enfin, massive. Bon. Mais non, je suis complètement déprise de ça, enfin, parce que c'est tellement peu intéressant, peu tellement bête. C'est tellement bête, le pouvoir, en fait.
Mais ça vous intéresse quand même.
Mais disons que ce qui m'intéresse... C'est de voir comment il se déplace, comment il danse, quel est son langage, quelle est sa chorégraphie, quelles sont ses répliques, quels sont les dialogues de tout ça, de cette comédie qui est très forte, hein, parce que là, on peut toujours s'amuser, on peut toujours s'en moquer. Enfin, en réalité, il faut absolument pas s'en moquer, parce que c'est quelque chose de très sérieux, qui s'impose à nous de manière absolue, en réalité. Ou alors, on peut être dans la posture de l'ermite, de dire « oh là là, moi non ». Voilà, qui est une posture encore, et qui ne m'intéresse pas non plus, en réalité.
Et vous, vous vous considérez comme une femme de pouvoir aujourd'hui ?
Moi, non. Non, je ne l'ai jamais été.
C'est une question de caractère, de tempérament, de pouvoir ?
Et de ce qu'on fait, aussi. C'est ce qu'on choisit de faire. Moi, j'ai toujours fui, en réalité. C'est-à-dire qu'au départ, quand je commence mes études, qui sont des études en droit, en langue aussi, je me destine naturellement vers des postes de pouvoir, a priori, puisque, comme tout étudiant qui est en droit, qui est à un certain niveau, et qui se retrouve automatiquement, qui fait des écoles, qui fait ça, et c'est forcément pour accéder à un de ces postes de pouvoir. Sauf que, il y a un moment, je tombe par terre. Et tout d'un coup, toutes ces études brillantes, que je fais brillamment, eh bien, je cesse de les faire brillamment et je cesse de les faire complètement. J'y arrive plus, en réalité. À un moment, ça s'arrête. Je n'arrive plus à faire tout ça. Je n'y crois plus. Je n'arrive plus à faire comme les autres. Je n'arrive plus à étudier comme les gens qui sont à côté de moi, dans la même bibliothèque, parce que j'ai commencé, à ce moment-là, à écrire. J'ai un manuscrit, comme ça.
Vous écrivez dans votre livre que vous vous sentez souvent à côté.
C'est vrai.
Ça depuis toujours ?
Non, pas dans l'enfance. Dans l'enfance, je me sens pas du tout à côté. Je me sens tout à fait dans la grâce de l'enfance, dans le bonheur de la vie avec ma mère et ma grand-mère. Je me sens comme une reine dans son quartier et dans son jardin. Non, 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 je me sens très très bien, vraiment. Pas du tout à côté.
Donc c'est pas une question de caractère chez vous, c'est vraiment lié à ce que vous avez vécu.
Il y a un désenchantement. On ne sait pas seulement ce que j'ai vécu, parce que au moment où je déménage, enfin c'est ce que j'ai vécu forcément, mais c'est pas forcément la question de l'inceste, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on déménage, on quitte cette maison, et heureusement je reste dans mon école, ma mère me laisse dans mon école. Mais on change de quartier et on va dans un quartier de la périphérie où je me sens mal et où, notamment, je commence à avoir peur d'une race bien particulière qui s'appelle les garçons. Et je ne sais pas comment faire pour... voilà, je passe beaucoup d'énergie à essayer de ne pas les croiser.
Et pourquoi vous avez peur d'eux à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous faisait peur ?
C'est des trucs d'enfant, hein, parce que quand j'arrive dans cette immeuble, je dois avoir dans les 7 ans ou quelque chose comme ça. C'est des trucs d'enfant, c'est-à-dire qui soulèvent votre jupe, des trucs comme ça, quoi, en fait. Qui vous courent après, avec des copains, dans l'escalier, enfin, des trucs comme ça, en réalité. Choses de peur qui sont sans raison. Et je dis à ma mère, et elle me raisonne, mais non, il y a... voyons, mais n'aie pas peur, enfin, ils sont très gentils, enfin bon, etc. quoi. Donc c'est des trucs... Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il n'y a pas d'hommes dans mon entourage.
À cette période-là, oui, il n'y a personne.
Il n'y a pas d'hommes dans mon entourage. Ma mère vit seule, je ne sais pas ce que c'est qu'un père, et quand je vais chez des copines... Quand il y a le père qui arrive, après, il faut voir ce que représentent les pères à l'époque. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose que maintenant. Ce sont vraiment les organes du pouvoir. Hein,
dans une figure d'autorité.
Mais bien sûr, et quel que soit le milieu social. Même dans un milieu ouvrier, même dans un milieu de commerçants, même dans une petite ville de province. Voilà, le père, l'homme, c'est l'autorité. Et si c'est l'autorité, c'est celui dont on a peur.
Bah écoutez, on en parle dans quelques instants. Vous restez avec nous, Christine Angot. On entrera plus en détail dans votre texte dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute Clara Luciani. Courage.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Je tout me tombe des bras. Ça fait tâche, tu ne t'y attendais pas. Je porterai plus que mon bagage. Je m'en fiche si tu me trouves lâche. Pas d'amour sans partage. Pas d'amour sans partage.
Vous écoutez, etc. Et nous sommes toujours avec Christine Angot pour évoquer avec elle son dernier livre, La Nuit sur commande, publié chez Stock dans la collection Ma Nuit au musée. Christine Angot, ce livre n'est pas vraiment une commande, sans quoi vous n'auriez pas pu l'écrire. Alors, c'est quoi ce livre ?
Alors, c'est un livre qui s'inscrit dans une collection où il y a un principe qui est établi, c'est-à-dire aller passer une nuit dans un musée et écrire un livre. Et donc, on se dit, enfin moi en tout cas, je me suis dit, super, j'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de chercher le livre. Le livre est là. On me dit ce qu'il faut que je fasse. Alors que ce qui est magnifique et ce qui est très difficile, naturellement, quand on écrit, c'est de trouver le livre. Où est le livre ? Avant de le trouver, pour que ce soit vraiment celui qu'on a à faire, il ne suffit pas d'avoir des idées comme ça. Toutes les idées sont mauvaises, d'une manière générale. Donc là, c'est OK. Il y a quelqu'un d'autre qui a décidé, qui a choisi. Et donc je me dis, c'est facile.
Quand on vous dit ce que vous devez faire, vous n'obéissez pas, vous.
Ben, c'est-à-dire que là, au contraire, je me dis, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien parce que c'est... Mais, je me retrouve dans l'incapacité. Je ne sais pas le faire, en fait. Et donc, je m'aperçois que ce que je pensais qui pouvait être un truc vite fait, bien fait, eh bien non, quoi. Je ne sais pas par quelle boule prendre, je ne sais pas, je vois pas, et ça ne m'intéresse pas, en réalité.
Alors, comment vous faites ?
J'attends, je passe du temps, j'insiste, je continue. La grande phrase, c'est ça. Le vrai truc, quand on écrit, c'est continuer. C'est la seule chose à comprendre, en fait. Donc je continue tous les jours, et puis à un moment, j'ai cette phrase qui est là, et qui vient, et qui est... Je vais la lire, ce sera plus simple. J'ai grandi dans une petite ville, Châteauroux, où la fréquentation de l'art se résumait à la visite du musée municipal. J'ai appris longtemps après l'avoir quitté qu'il abritait des œuvres de Camille Claudel. Je ne les connais pas. Le seul tableau dont je me souviens et que je revois vaguement, parce qu'on s'arrêtait devant, est le portrait du général Bertrand. Le musée portait son nom, il en était le fondateur. À partir du moment où je trouve ça, c'est-à-dire une chose très simple, mais très réelle, en réalité, hein, en fait, écrire, c'est toujours sortir du fantasme. Donc, écrire une nuit au musée, passer une nuit dans un musée, c'est déjà un fantasme. Et comme tous les fantasmes, une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et là, on n'est pas du tout dans le fantasme, là.
Mais pour revenir au réel, vous revenez souvent à l'enfance, dans chacun de vos livres.
Oui. L'enfance, en tout cas l'origine de quelque chose. Si on doit parler de quelque chose, c'est toujours beau d'en avoir l'origine. Parce que l'origine est belle, toujours, en fait. Que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans l'histoire d'amour, tout. C'est toujours beau, l'origine de quelque chose.
Les débuts.
Oui.
Christine Angot, la question est posée dans votre livre, mais vous n'y répondez pas. Est-ce qu'un écrivain est un artiste ?
Disons que si on oppose artiste et intellectuel, par exemple, je dirais que un écrivain, en tout cas l'écrivain que je suis, est un artiste plus qu'un intellectuel.
Quelle différence vous faites ?
Un intellectuel, il me semble, alors je ne sais pas, faudrait demander à des intellectuels, mais il me semble qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors que pour moi, un artiste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui fait autrement pour savoir, pour comprendre, pour voir.
Alors dans ce livre, vous parlez énormément du monde de l'art, et notamment de votre amitié avec l'artiste Sophie Kahl, qui, telle que vous la décrivez, ressemble davantage à une relation de domination qu'à une réelle amitié. Est-ce qu'on peut se faire de véritables amis dans les milieux de pouvoir ?
Je pense qu'il doit y avoir des gens, je ne peux pas imaginer que des gens qui sont dans des sphères de pouvoir n'aient pas d'amitié. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'arrive à ce moment-là, c'est que je suis conviée dans un contexte qui s'appelle « on est des amis », qui s'appelle l'amitié, qui s'appelle les soirées, qui s'appelle les dîners, qui est complètement présenté comme l'amitié, et c'est sûrement, ça peut sûrement être de l'amitié, et sûrement qu'entre des gens qui font partie de ce groupe, il y a de l'amitié.
Mais ça ressemble à un spectacle.
Mais pour moi, en tout cas, je ne ressens pas ça. Je ressens qu'il y a plus une sorte comme une société de cours, pratiquement. Alors, est-ce que dans une société de cours, il y a des amitiés et des amours ? Sûrement.
Vous employez une expression très forte, le sentiment d'avoir été socialement maltraité. Et je voulais savoir si cette maltraitance avait un lien, selon vous, à celle que vous aviez subie dans l'enfance et l'adolescence.
Franchement, je pense que pour avoir le sentiment d'être socialement maltraité, il n'y a pas besoin d'avoir subi un inceste. Je pense que c'est quelque chose de très courant, de très commun, de très quotidien, que tout le monde ressent à un moment ou à un autre. Et que, y compris ceux qui s'arrangent pour ne jamais être dans cette situation parce qu'eux-mêmes prennent l'autre rôle, c'est-à-dire celui de maltraiter les autres, c'est justement pour se protéger et pour faire en sorte de ne pas être à la place de celui qui sera maltraité, dont ils doivent avoir sûrement une idée, une expérience. Donc je crois que personne n'échappe à ce régime de sensations.
Il faut dire que votre livre est très drôle aussi par moments. Vous faites des descriptions très justes du monde de l'art. Vous écrivez « L'argent tenait une place beaucoup plus importante dans leur milieu que dans celui des écrivains. On vous présentait quelqu'un en mentionnant la maison sublime qu'il possédait quelque part, comme si c'était une qualité personnelle. » Est-ce que le milieu littéraire est moins pire ?
C'est-à-dire que là, ce qui est marrant, c'est toute la comédie de ça, quoi. Le milieu littéraire... Alors, il y a quand même quelques différences dans le milieu littéraire. C'est que je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de rencontres. Ça reste quand même, écrire, c'est quand même chacun chez soi.
Il n'y a pas le même culte de l'argent.
Ben, c'est-à-dire que ce qui est très particulier et très différent, c'est qu'un écrivain qui vend très peu de livres et qui par conséquent gagne pas forcément beaucoup d'argent et qui même en gagne assez peu, peut être beaucoup plus respecté qu'un écrivain qui vend beaucoup, beaucoup de livres et qui a beaucoup d'argent. Et quelquefois, c'est inversement proportionnel. Donc c'est assez marrant, c'est pas du tout le même régime en réalité.
C'est ce que vous écrivez d'ailleurs, vous dites dans le milieu de l'édition, la hiérarchie est marquée par un système d'échange entre la crédibilité des uns et l'aisance matérielle des autres qui se dit en permanence.
Oui.
C'est exactement ça.
Oui, parce qu'il y a ceux qui, évidemment, veulent publier des livres, veulent se dire écrivain. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant avec ce statut de l'écrivain, c'est que c'est un statut qui est recherché pour lui-même. Écrire des livres, c'est comme un horizon avant même de savoir ce qui avant même d'avoir une, je sais pas, un amour de
c'est
de
presque une médaille, en fait.
Oui, c'est une distinction sociale, en fait, hein, qui permet de faire une petite fête le jour de la sortie du livre, par exemple.
Mais Christine Angot, cette lucidité que vous avez, elle doit être insupportable à vivre, non ?
Oh ben non, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Ben non, non, ça c'est...
Ça vous permet d'avoir un regard amusé sur tout ça.
La lucidité, elle n'est pas là tout le temps. Donc il y a des moments. Le temps est long, la vie est longue, il y a plein de périodes de temps. Donc vous passez un temps fou à en effet, ne pas être très bien, parce que vous ne comprenez pas quoi, en fait, ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous êtes blessé, parce qu'en fait, vous ne savez pas très bien, quoi. Ça pourrait être de l'amitié, c'est peut-être de l'amitié. Et alors, du coup, pourquoi vous êtes mal? Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et puis, à un moment, quand même, vous comprenez et vous voyez. Et là, c'est au contraire... là, c'est très drôle, quoi, de voir la représentation.
Quand vous écrivez?
Quand j'écris, est-ce que je m'amuse? Non, pas vraiment. Non, je ne peux pas dire que je m'amuse. C'est beaucoup plus que ça. C'est trop light, quand même.
Vous êtes dans quel état?
Je suis là. Je suis complètement là.
Vous n'êtes plus à côté?
Ah non.
Christine Angot, on se retrouve dans quelques instants pour une discussion avec nos libraires autour de l'écriture, de la nécessité d'écrire, qui est l'autre grand sujet de votre livre. Vous écoutez, etc. C'était Sheila Bang Bang et nous sommes toujours en compagnie de Christine Angot.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassen.
Christine Angot, on va tout de suite au Québec où nos libraires francophones vous ont lu avec beaucoup d'intérêt. Bonjour Audrey Marcel.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières au Canada et vous aviez envie de vous adresser directement à notre invité.
Oui, bonjour Christine Angot.
Bonjour.
J'ai lu quelques-uns de vos livres, mais ma lecture de La nuit sur commande m'a donné envie de me replonger dans votre œuvre avec l'impression peut-être de mieux saisir votre rapport à l'écriture. La première partie m'a donné l'impression de découvrir une genre de version moderne de l'image que je me fais, moi, ici au Québec, de la royauté française, où les rois et les reines auraient été remplacés par les artistes les plus en vogue de l'heure et où vous auriez eu, pendant un moment, été la favorite de la reine, interprétée dans ce remake par Sophie Calle. Je vous remercie pour cette incursion dans le milieu huppé de l'art, auquel on n'a normalement pas accès, même si, comme vous le dites si bien, la beauté, le beau, ça nous appartient autant qu'aux autres. C'est un peu pour ça aussi que j'adore la collection Manu au musée, pour les réflexions très personnelles qu'elle entraîne généralement chez les auteurs. J'ai bien entendu été étonnée par votre façon de déjouer le concept de la collection pour nous faire entrer dans le musée à peu près à la moitié du récit. J'ai encore plus été surprise, voire même déstabilisée par l'heure de votre départ. Je vous avoue que j'aurais aimé déambuler dans les galeries du musée avec vous et votre fille, mais je vous en veux pas parce que j'ai été vraiment émue en comprenant, grâce à cette commande, votre rapport doux-amer à l'écriture.
Et un passage vous a particulièrement émue, Audrey?
Oui, Lilia, j'ai relu plusieurs fois ce passage où vous dites, Christine Angot, que les femmes, après le mouvement MeToo, étaient nombreuses à vous remercier d'avoir parlé. On vous lit ainsi. « On ne me parlait que de la chose que j'avais soi-disant dite alors que j'avais écrit. J'ai été bouleversée par ça. J'avais jamais réfléchi à quel point, dans la vie d'une écrivaine comme vous, écrire et parler peuvent être deux choses radicalement opposées. » Bref, grâce à vous, ben, j'ai cru avoir accès à des rumeurs en provenance des hautes sphères de l'art moderne et j'ai plutôt découvert un témoignage touchant sur la déchirure de l'écriture qui peut être à la fois, et je vous cite encore une fois, une joie et un serrement de gorge parce que l'écriture, ben, c'est l'endroit où vous vivez, un lieu qui n'existe pas et où vous êtes seule. Merci, Christine Angot, j'ai beaucoup aimé votre livre.
Merci. Alors, avant que vous posiez votre question, Audrey, est-ce que vous voulez réagir, Christine Angot?
Juste peut-être, oui, dire une petite chose sur la question des fameux horaires, déambuler, etc. Justement, ce que je cherche à faire, quand je vais dans cette nuit-là, c'est de me préparer pour pouvoir écrire quelque chose.
Vous rentrez à 1h du matin, je précise, pour ceux qui n'ont pas lu le livre.
Oui. Tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas les mêmes horaires. Pour moi, 1h du matin, c'est extrêmement tard. Moi, je me réveille normalement vers 4h du matin. Donc, à 1h du matin, je ne sais pas si vous voyez où j'en suis, quoi. C'est oui. Un peu difficile pour moi. Et ce n'est pas tellement que ce soit difficile, c'est surtout que c'est une question physique hein, aussi. Être dans un lieu, dans un musée qui n'est pas chez soi, qui est un lieu justement de comme ça, de tout en pierre, enfin bon. Et je suis fatiguée. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où je suis fatiguée, j'ai plus rien à donner, j'ai plus rien à recevoir non plus. C'est-à-dire que je peux regarder tous les tableaux que je veux, il se passera rien en réalité.
Et la réflexion était déjà entamée de toute façon, même si vous y passiez pas la nuit vraiment.
Merci Audrey. Christine vous a répondu.
Oui, c'est ça.
Et donc, pour prolonger la chronique d'Audrey Martel, Christine Angot, vous avez effectivement écrit, et Audrey Martel faisait la différence entre écrire et parler. Oui. Quelle différence faites-vous entre écrire et parler?
Ça n'a aucun rapport. Pour moi, hein, parler, c'est... parler, c'est parler à quelqu'un, d'abord. À moins de parler tout seul, mais ça, c'est un autre problème. Donc, parler, c'est une activité sociale.
Parce qu'on dit des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou des viols, on dit qu'elles ont parlé. Et vous, est-ce que vous considérez que vous avez parlé, vous considérez que vous avez écrit?
C'est-à-dire que j'ai parlé à un moment où j'ai pu parler aux gens à qui j'ai pu parler. Ça n'a rien à voir. J'ai parlé un tout petit peu à un moment, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire, et à un moment, très tardivement, mais je l'ai fait avec beaucoup de difficultés, mais je l'ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai parlé? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais rien! En fait, quand on parle, quand on dit « il faut parler », parce qu'en fait, la phrase c'est « il faut parler ». Alors déjà...
C'est une injonction.
C'est toujours une injonction. Donc « il faut parler ». Déjà, ça commence comme ça. Ok. Mais pour dire quoi? Pour dire « il a fait telle chose » ou pour dire « j'ai subi telle chose ». Ok, c'est une phrase, si on arrive à la faire, qui a très rarement des prolongements. Il est très rare que cette phrase soit suivie d'autres précisions, d'autres commentaires. Pour ce qui me concerne, j'ai écrit. Ça veut dire, j'ai montré les pièces, j'ai montré les vêtements, comment ces gens-là sont habillés, j'ai montré la façon dont ils marchent, j'ai montré les scènes. Qu'est-ce que c'est la scène où le père violeur, qu'est-ce qu'il fait concrètement avec son sexe, qu'est-ce qu'il attend, comment il le dit, alors ça j'ai fait, franchement, si j'avais dû parler pour faire tout ça, alors d'abord on m'aurait demandé de me taire. et puis c'est impossible de parler. Tout ça est impossible à dire à partir du moment où on veut que la scène soit vraiment là, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce que c'est, quoi, de quoi on parle.
Oui, c'est ça. Ça demande un travail de mémoire, de réflexion,
de langue. C'est-à-dire, oui, c'est ça.
La littérature permet ça.
Ben, bien sûr, rien d'autre.
Au sujet de l'écriture, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, justement, mon passage préféré. Vous êtes à Rome avec votre fille, et il y a cette sculpture de Sainte Thérèse d'Avila qui vous bouleverse. C'est à vous.
On est allé à Santa Maria della Vittoria, où se trouve la sculpture de Sainte Thérèse d'Avila par le Bernin. C'est une sculpture d'autel en marbre installée en hauteur. On ne peut pas s'en approcher. On la voit de loin et d'en bas. Son visage est tourné vers le ciel. Elle a les yeux mi-clos, le corps renversé en arrière, les pieds crispés, qui dépassent sous les plis du vêtement. Un ange à sa gauche dirige une flèche vers elle. C'est la flèche par laquelle elle reçoit la révélation divine. Tout le corps est en torsion, des épaules aux chevilles. Les pieds crispés, les paupières mi-closes, le regard qui part vers l'intérieur, et elle sourit. Elle est en extase, en contact avec quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas, qui est au-dessus d'elle. Et moi, je m'identifiais à elle. Je pleurais, là, dans l'église. À l'époque où j'ai commencé à écrire, je n'aurais pas su l'exprimer, mais c'était ça, exactement ça. C'est ce que je ressentais, l'extase d'un autre monde, qui existait. C'était ça et c'est toujours ça. C'est toujours ce que je ressens. J'ai toujours cette impression d'une histoire d'amour fou, d'une révélation, de quelque chose d'incroyable, qui est largement au-dessus de moi.
L'extase d'un autre monde. Est-ce que vous écrivez, Christine Angot, pour vous réincarner, d'une certaine manière?
C'est une question difficile.
Vous êtes où quand vous écrivez?
Je ne suis pas là. Je suis ailleurs.
Et vous habitez votre corps quand vous écrivez?
Je suis ailleurs, quoi. Je suis... Je l'habite totalement, totalement. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de son, il n'y a pas de sensation de toucher, il n'y a aucune possibilité d'utiliser toute la langue du sensible dont on a besoin pour écrire si on n'a pas de corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je dis que je suis pas là et en même temps je suis quelque part. Hein, je suis quelque part. Hein, mais ou peut-être c'est le reste du temps que je ne suis pas là. Quoi. Hein, c'est possible aussi. Hein, c'est possible aussi.
Vous avez dit à un moment que l'inceste abîmait le langage. Mmh. Comment on fait pour écrire?
Alors l'inceste abîme le langage. Mais il n'abîme pas spécifiquement le langage. Il abîme le langage de tous, de nous tous, hein, puisque...
Donc il faut trouver quand même d'autres mots.
Puisqu'il s'attaque au sens des mots. C'est-à-dire que l'enfant n'est plus traité comme un enfant. Donc il abîme le langage social pour tous, pas seulement le langage de l'enfant qui a été violé ou qui est violé ou qui est en train de l'être. Non, c'est sur toute la société qui abîme le langage.
Vous en êtes consciente, c'est la différence.
J'en suis consciente, il a bien fallu que j'en sois consciente. Oui, il a bien fallu.
Mais est-ce que ça vous oblige à un travail de précision? Enfin, moi, je le sens quand je vous interroge, quand je vous lis, vous faites très attention aux mots. Peut-être plus que d'autres.
Ça, je pense que c'est autre chose. Parce qu'en fait, bien avant de rencontrer mon père et de subir ce que j'ai subi et d'être violée par lui, bien avant de le voir, quoi, enfin, longtemps avant, je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Donc, bien avant d'avoir 13 ans, j'avais un délire avec les mots. J'étais dans une passion totale avec les mots.
Elle vient d'où, cette passion?
Je pourrais sûrement chercher des explications, mais en tout cas, elle était là. J'avais une espèce de délire alors qui se concrétisait, par exemple, dans la relation avec ma mère, puisque, comme il se doit, et comme beaucoup d'enfants, j'adorais ma mère, bien entendu. Ce qui m'intéressait pour lui, c'était de le lui dire sous des formes permanentes, variées.
Vous n'aimiez pas utiliser le langage de tout le monde.
En fait, pour moi, le langage, c'est avant tout une chose drôle. Vraiment. C'est une chose comique, quoi. Vraiment. Donc, aimer ma mère, c'était lui proposer tout un tas de mots pour lui parler de l'amour que j'avais pour elle, des projets que je faisais avec elle, d'aller vivre à tel endroit avec elle, etc. J'étais intarissable. Donc, j'avais beaucoup ça, à l'école aussi, mais c'était très important déjà. Et donc, quand je rencontre mon père... ce qui m'intéresse dans le fait de le rencontrer, c'est qu'il parle des langues.
Bah oui.
Voilà, il parle beaucoup de langues étrangères. J'ai pu penser pendant longtemps que j'avais une passion des langues étrangères, alors que oui, c'est vrai que j'aime bien ça.
Après, c'est la formule proustienne, hein, d'écrire comme si on écrivait dans une langue étrangère.
Mais de toute façon, écrire. On ne peut pas parler comme on écrit. Ça, c'est pas possible. Ce sont deux espaces différents.
Vous dites que l'écriture, ce n'est pas être occupé, mais être possédé. Lors d'un échange avec votre fille, l'écriture a donc un prix. C'est pas gratuit d'écrire. Qu'est-ce que ça coûte?
Ah, mais cette possession, je pense qu'elle peut être compliquée pour l'autre, pour celui qui est auprès de vous, y compris pour ma fille, sûrement, à un moment. Et l'homme avec qui je vis, ou le père de ma fille avec qui j'ai vécu, et tout ça, sûrement. Mais être possédé pour celui qui l'est, c'est un délice, quand même, hein.
Je vous posais la question parce que vous racontez à un moment que vous étiez triste parfois de laisser votre fille. Léonore est toute petite et vous pleurez à la gare à l'idée de la laisser pour aller écrire à Marseille.
Parce que c'est la première rupture. Elle a 2 mois. Donc, vous savez ce que c'est. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes savent ce que c'est de quitter un bébé pour la première fois. Donc, c'est un déchirement. Oui. Mais maintenant, je suis habituée, heureusement.
Elle aussi.
Ben oui.
Votre fils est un personnage important de votre livre et de votre film aussi, Une famille sortie l'an dernier. On a le sentiment que vous apprenez beaucoup d'elle. Bébé, elle vous apporte une part d'innocence qui vous a été volée. Puis dans votre film, elle vous dit les mots que vous attendiez. Et dans ce livre, elle vous accompagne et vous confie sa vision de l'art.
C'est-à-dire que, d'une manière générale, j'aime beaucoup apprendre, je suis très curieuse, très intéressée de ce que voient les gens. Parce que chacun voit des choses très différentes en réalité. Et quand on a un rapport à la vérité, et je crois que Léonore a un rapport à la vérité, et que... Alors à ce moment-là, les gens voient des choses que moi je ne vois pas, par exemple. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir... J'aimerais bien savoir ce que vous voyez, par exemple, vous aussi, Lilia.
Je vous le dirai un jour. pour revenir à l'écriture, vous avez une manière d'écrire qui est... très, très libre et qui perturbe le jeu littéraire habituel. Moi, c'est ce qui me plaît. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger parfois cette liberté, cette manière de... Je ne dirais pas tout dire parce que je ne pense pas que vous disiez tout, mais...
Je ne comprends pas vraiment.
Cette manière de dire la vérité.
Je ne vois pas très bien de quoi on parle en réalité. Je sais ce qui, moi, m'intéresse. Je sais ce que... Je sais quand, à quel moment je... J'ai l'impression d'avoir fait une phrase que je vais laisser parce que j'ai l'impression qu'elle est vraie, que la phrase est vraie. Alors, ok.
Et vous ne comprenez pas que la vérité dérange?
C'est quand même un éclat de lumière, quoi.
Si je vous pose la question...
C'est plutôt quelque chose de beau.
Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'on a un libraire... qui a un avis plus nuancé sur votre livre, et ça m'intéresse, ça, qui s'exprime pour que vous puissiez lui répondre sur une critique ou une remarque qu'on vous fait souvent. Mac Vienno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie Mediapol de Montréal, et le texte de Christine Angot vous a désarçonné à certains moments.
Oui, Lila, bonjour Christine Angot.
Bonjour.
J'avoue que j'ai un peu hésité avant de vous lire, une part de crainte, une part de réticence même. Je ne savais pas trop où j'allais, où le texte me mènerait, comme vous, pendant que vous l'avez écrit. J'ai été divisé, dispersé. Au début, souvent, vous jetez des noms, vous amenez dans votre récit le nom de l'une ou citez la présence de l'autre. À d'autres moments, plus loin dans le texte, vous conservez l'anonymat pour certains. J'ai senti, je vous l'avoue, une forme de frustration. Et puis, j'ai quand même compris. Votre vie est la vôtre, et même si vous en parlez avec une ouverture désarmante, mais vous avez le droit de dire vos événements, de raconter votre parcours comme il vous plaît.
Et vous me disiez, Mike, que vous aviez même été touché un peu malgré vous.
Oui, j'avoue que j'en ai ressenti une part d'empathie, un genre de lien inexplicable avec celle qui n'est pas tout à fait vous, mais celle que vous voulez que je comprenne. J'ai senti parfois mieux vous connaître, j'ai ressenti parfois que vous n'étiez pas celle qu'on croit être. Et de toutes ces paroles, de tous ces doutes, je retiens quand même beaucoup, et surtout cette phrase « J'ai eu des nuits difficiles ». Et puis après avoir été un lecteur distrait, ou discret, j'ai relié les fils, les liens. Ce texte, c'est pour votre fille, ses anecdotes, ses aventures, ses déconvenues. Vous les adressez à votre fille, tout comme vous lui dédicacez ce livre. Et autour de tout ça, j'ai une question pour vous. Je comprends votre manière d'amener le récit. Je saisis votre besoin de raconter. Je doute parfois de la manière, de l'avenue empruntée. Et ma question est, en tant que lecteur, est-ce que je dois faire présence comme un voyeur? Est-ce que je dois être voyeur? Est-ce que je dois tout savoir?
La question de savoir, c'est pas tellement intéressant. C'est juste d'entendre. Il n'y a rien à savoir, en fait. Il y a juste à entendre. Donc, c'est sûr que si on se met dans la position de savoir ou de ne pas savoir, ou d'en savoir trop, ou d'en savoir pas assez... Enfin, bref, si la question est celle du savoir, je pense qu'on ne peut pas lire ce livre. Donc, c'est pas du tout... C'est pas du tout mais, en revanche, entendre, voir... avoir l'impression d'avoir une lumière tout d'un coup, voilà. Et par exemple, sur ce que vous dites des noms, qu'il y a des noms qui sont authentifiés comme étant des noms de personnes réelles, et que d'autres qui sont un anonymat, c'est pas un anonymat, c'est que ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'il y a certains personnages qui entrent dans le livre en tant que personnages portant un certain nom qui a une résonance publique et qui est là pour ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent, pour certains, être, avoir plus ou moins être identifiées, mais ce n'est pas la question, mais qui, en revanche, deviennent eux-mêmes, et ça, on le sait, qui deviennent des fonctions. Par exemple, le banquier, celui qu'on appelle le banquier, il n'y a aucune nécessité ni de lui donner un nom qui pourrait être son nom réel, ni de trouver un nom de personnage, parce qu'il est pleinement le banquier. Il est le personnage du banquier dans le livre. Exactement pareil pour l'acteur qui correspond à...
un archétype, quelque part.
Oui, exactement. Donc, ce n'est pas du tout un choix de dire ah ben là, je dis le nom, là, je ne le dis pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que non. C'est
la nécessité, en fait.
Oui, ce sont des choix qui se font pour, pour le texte lui-même, en fonction du texte lui-même. Pas du tout en fonction de moi, ni en fonction des autres.
McVinos, la réponse vous convient ?
Oui, ça me convient très bien. Je pense que je comprends un peu mieux l'approche.
Super.
Ouais. Merci. Merci Christine Ango. On se retrouve dans quelques instants, mais avant, on écoute SCH 2000.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. Et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smica. Amis pris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On t'info 3, 8, on dit loup, on hack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. Sans des cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et j'bois ce whisky sans glace. J'suis né avant les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. Ça descend, je pense à vrai. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le taron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Le crissement du VR6. J'tire le poste avec un prise classe. La crâne bien défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse. J'fais des sourires au camé. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Christine Ango. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Etc. Lilia Hassen.
Et nous partons en Suisse pour le coup de cœur de notre libraire Fedra Hautmann de la librairie Café Le Vent se lève à Saint-Ursanne. Bonjour Fedra.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une autrice qui compte beaucoup pour vous.
Oui, Lilia, plutôt qu'un livre aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un véritable coup de cœur pour une auteure, Gabrielle Filto-Shiba. Auteure donc, mais également illustratrice, militante et planteuse d'arbres originaire du Québec. Elle a été révélée il y a quelques années grâce à sa très belle trilogie, qui est en partie autobiographique, intitulée « Encabanée, Sauvagine et Bivouac ». Gabrielle Filtoshiba est en colère contre tous ceux qui saccagent, abîment et violentent le vivant. Elle conçoit ses livres comme des manuels de résistance. Pour elle, la poésie, la littérature, le dessin, ce sont des vecteurs pour éveiller les consciences, une tribune pour parler de la nature et de la forêt. Son engagement va d'ailleurs beaucoup plus loin, car elle consacre une partie de ses droits d'auteur à l'achat, seul ou en groupe, de terres et de forêts, afin de les protéger de la monoculture et des coupes à blanc.
Et vous avez lu son dernier livre, Exa, chez Stock, en lice pour le prix des libraires du Québec.
Oui, Lilia. Gabrielle Filtoshiba, elle nous revient aujourd'hui avec Exa, qui marque une rupture, puisqu'il ne s'agit plus de récits autobiographiques, mais d'un roman d'anticipation. L'histoire se passe au Québec en 2090, dans la cité de Sainte-Foy, où nul n'a le droit de franchir le grand mur qui entoure la ville et protège ses habitants de la dévastation et du chaos qui sévissent au-delà. L'héroïne du livre, elle s'appelle Tali, c'est une adolescente, elle a 16 ans. Elle vit avec un père qui est très présent, mais sa mère, elle la voit très peu. Et pour cause, Sandrine, elle les quitte chaque début de printemps pour aller reboiser le nord du pays avec un groupe de femmes qu'on appelle les planteuses-arbres, qui sont tour à tour guerrières, herboristes, sages-femmes et sorcières. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup ce genre de personnages. Et puis l'idée du groupe et de l'entraide, ça me parle beaucoup aussi.
Et ce qui vous a beaucoup touché, Fedra, c'est le lien mère-fille, assez inédit.
Oui, Tali, elle reçoit cette année l'autorisation d'accompagner sa mère et donc d'en apprendre un peu plus sur celle qu'elle connaît pas vraiment. Elle découvre que sa mère est une femme surprenante et une meneuse, d'ailleurs la plus rapide des planteuses d'arbres. Et puis elle est fière d'avoir une mère si incroyable et respectée de tous. Et loin de toute forme de civilisation, l'adolescente va découvrir aussi un monde nouveau où la nature est omniprésente, où la sororité règne et où tout semble encore possible. C'est vrai que ça me touche et que ça me donne envie d'aller planter des arbres. Gabrielle Filtoshiba, avec ce dernier livre, elle nous offre une vraie fable écologiste et féminine, mettant en scène des personnages justement féminins toujours puissants, captivants et charismatiques, qui œuvrent pour le bien commun afin de restaurer la vie, la nature et la liberté. Ça encourage, ça fait du bien. Et ben voilà, je me demande, le salut viendrait-il des femmes? J'aime à y penser. En tout cas, c'est le défi fascinant de toute l'œuvre de Gabrielle Filtoshiba à lire absolument.
Ça s'appelle Exa, c'est chez Stock. Merci Fedra.
Merci.
Et c'est déjà la fin de cette émission. J'ai été ravie de vous recevoir, Christine Angot.
C'est moi, merci beaucoup.
Et je conseille vivement votre texte La nuit sur commande dans la collection Ma nuit au musée, publié chez Stock. Proust écrivait « Les livres sont l'œuvre de la solitude et les enfants du silence ». C'est dans Contre Sainte-Beuve et je trouve que cette citation vous va bien. Un mot de remerciement aussi à nos libraires du jour, Fedra Hautmann, Audrey Martel et Mike Viennot. Je rappelle que cette émission est en coproduction avec les médias francophones publics en Suisse, en Belgique et au Canada. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Ronan Mahé à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.